Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro un petit peu spécial. Et oui, je suis un peu esselé, voilà, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Arnaud Berdelet est en vacances, donc je vais animer cette émission seul, bien sûr, avec Marion à la réalisation, ici en direct des studios d'Eurosport en première partie. Ben voilà, c'est la ruade de Poulain, comme d'habitude, j'avais envie de parler de Melvin Jaminet. Voilà, j'ai une pensée toute particulière pour Melvin Jaminet, qui s'est blessé ce week-end à Jambouin. J'étais à Jambouin et j'aimerais revenir sur son parcours à la fois fulgurant et atypique. Melvin Jaminet commence le rugby à l'école de rugby du RC Toulon. Il joue ensuite une saison au rugby club Vallée de Gapo à Souliers-Pont, puis deux saisons au RC Hyères Carqueiron, la Cro, avant d'intégrer le centre de formation de l'USAP en 2018 à 19 ans. Il connaît une fulgurance en devenant à la fois pro et enchaînant avec l'équipe de France, dont il devient le buteur attitré pendant la fameuse tournée, souvenez-vous, la fameuse tournée héroïque en Australie il y a 2 ans. Je parle de la fulgurance de... Voilà, car qui peut être prêt à vivre de telles sensations en si peu de temps. Voilà, passé en Pro D2, voilà, à 20 ans, et puis directement en équipe de France. Melvin Jaminet a connu la gloire, la blessure, la Pro D2, le top 14, l'équipe de France, la critique lors d'un mauvais choix en fin de match en Australie, la confiance du staff aussi de l'équipe de France qui le réaligne malgré son erreur. Il devient le héros de cette tournée et rentre chez lui avec une nouvelle pression, sûrement inconsciente, sur les épaules. Puis, il y a son arrivée aussi à Toulouse avec une autre concurrence, avec un changement d'univers et de statut. Et puis, il connaît la blessure, la concurrence, ce qu'on appelle plus connément le creux de la vague aussi, et tous ces événements cités en même temps, et tout ça en même pas 2 ans. Samedi soir, cette blessure qui arrive comme un avertissement à la fois pour lui, mais aussi pour son entourage pro. Ma question, comment gérer cette vie particulière, extraordinaire, que vivent certains qui prennent la pression, la notoriété, la contre-performance parfois, et la remise en question en si peu de temps, à un âge où la plupart d'entre nous entrent à la fac ou commencent leurs études? Comment les accompagner au mieux pour comprendre la pression et la gérer? Comment tirer des leçons aussi d'un début de carrière en mode piste noire où tout va à 10 000 alors que tu ne t'es entraîné que sur une piste bleue depuis ton enfance? On n'est pas préparé à vivre une telle vie où tout va trop vite. Il faut grandir d'un coup, se responsabiliser, apprendre à gérer un corps, des émotions, un mental, le regard des autres qui change alors que tu restes au fond le Melvin de Souliers-Pont. Bon courage à toi et on te sait hyper bien entouré, bien sûr, à Toulouse. Et même si la solitude de ces moments de rééducation est abyssale, comme on dit dans le jargon, tu reviendras plus fort. Car de l'échec et de la blessure naît la maturité, si celle-ci est comprise et bien gérée. Jambouin s'est levé lors de ta sortie sur Civière. Espérons que le public n'oubliera pas trop rapidement l'homme et son histoire, car on a souvent tendance à mettre sur un piédestal nos gladiateurs très rapidement et à les oublier tout aussi vite. Oui, le sport de haut niveau est un milieu à la fois magnifique et ingrat. Mais n'oublions pas qu'en face de nous, sur le terrain, nous glorifions des êtres humains. Voilà pour la ruade de Poulain. Nous allons passer à la seconde partie avec notre invité, un invité un petit peu spécial, Gérard Bertrand. Gérard Bertrand, comme je vous l'expliquais, c'est un joueur, ancien joueur et capitaine du RCN, du Racing Club de Narbonne, qui a été aussi joueur au sein du Stade français au milieu des années 90. Il est devenu le meilleur vigneron du monde selon une revue anglaise et on le reçoit dans un instant. Et je suis ravi de le recevoir parce que je l'ai connu il y a quelques mois. Je le connaissais de réputation. Mais je l'ai connu il y a quelques mois et j'ai eu l'occasion de partager un déjeuner avec lui. Et je voulais vraiment l'inviter parce que c'est un personnage un peu spécial. Et vous connaissez aussi mon amour pour les anciens, pour les anciennes gloires du rugby. Et voilà, ceux qui ont cette parole bien faite. Il a écrit 2 bouquins, Gérard, et on le reçoit maintenant. Allez, deuxième partie de Poulain Raffut. Comme vous le savez, Arnaud Berdelet, le journaliste qui commente avec moi, n'est pas là aujourd'hui. Et je vous avoue que j'ai eu un coup de cœur. Moi, il y a quelques mois, j'ai fait une rencontre assez spéciale dans ma vie. Vous le savez, hein, depuis que Poulain Raffut existe, depuis 6 ans, j'ai la chance de rencontrer des hommes et des femmes hyper inspirants depuis mon arrêt de carrière. Gérard Bertrand, mesdames et messieurs, ancien capitaine du Racing Club de Narbonne et aussi ancien joueur du Stade français qui aujourd'hui a été élu meilleur vigneron du monde. Donc on lui posera la question à savoir est-ce que ça a la même saveur qu'un bouclier de Brennus, même s'il n'en a peut-être pas gagné, mais voilà, savoir un petit peu comment on peut faire le parallèle entre le monde de l'entreprise et le sport qu'il a connu dans les années 80 et 90. Salut Gérard.
Bonjour Raphaël.
Ravi de te voir. Écoute Gérard, j'ai toujours l'habitude de faire le petit portrait et de te poser la première question. Donc je vais parler un petit peu de notre rencontre. Gérard, on s'est rencontré il y a 2 mois maintenant dans ton domaine de l'Hospitalet, près de Narbonne, ta terre natale. Je te savais ancien rugbyman et capitaine narbonnais, passé à la fin de ta carrière, comme j'ai expliqué, par le Stade français quelques saisons lors de la remontée fulgurante du club entre 92 et 98 et les débuts de Max. On a échangé sur nos parcours respectifs, sur nos valeurs, sur nos rugby. Ça a vite glissé vers un échange un peu philosophique sur nos vies, sur la vie, sur la transcendance, entre autres. Sujet rare que l'on peut aborder avec peu de personnes, tant les sujets sont profonds et passionnants. accompagné d'une bonne bouteille de rouge, oui, d'une bonne viande, tu m'as accordé du temps précieux, comme le ferait tout bon ancien qui se respecte, des échanges essentiels pour moi et ma construction d'homme, comme j'ai eu la chance de vivre avec Jean-Pierre Rive, Philippe Sella, Olivier Rouma, Jeff Tordeau, Jean-Marc Pigeot ou encore Guy Norès. J'ai cette chance de rencontrer des hommes comme toi et je mesure à chaque rencontre combien les anciens sont essentiels dans nos constructions. Des hommes passionnés, pleins d'expérience et de recul, capables de te raconter leurs échecs, leurs victoires, leurs défaites avec émotion et que tu écoutes parce que passionné et passionnant. On a donc parlé de la transmission, but ultime de toute vie et du voyage que l'on entreprend pour devenir un homme complet. On a parlé de vin, on a parlé du passé et du présent. On s'est quitté en échangeant une poignée de main, un sourire avec la promesse de se revoir vite pour échanger encore sur nos livres respectifs. Gérard, au-delà de la réussite professionnelle qu'on te connaît et on va en parler, c'est surtout l'homme, sa passion, ses engagements pour le futur, sa manière dont il parle, dont tu parles justement du vin, de la vie que je suis venu chercher aujourd'hui. Et comme un bon vin, nous allons prendre le temps de te découvrir. Alors Gérard, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet directement. Tu as reçu deux distinctions. The Master Winemaker pour la qualité exceptionnelle de tes vins et pour ton engagement citoyen dans la biodynamie. On imagine que c'est un véritable travail d'équipe. Est-ce que ça ne vaut pas, justement, la question que je t'ai posée au début, ça ne vaut pas une distinction, un bouclier de meilleur vigneron du monde? Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec les palmarès qu'on peut avoir aussi dans le monde du rugby?
Écoute, Raphaël, c'est deux mondes différents, mais par contre, c'est deux mondes qui sont... très complémentaire. Et puis je dirais que dans le sud il y a deux religions, c'est le vin et le rugby. Donc moi j'ai eu la chance d'être nourri aux deux, puisque à l'époque le rugby n'était pas professionnel, et quand j'étais gamin, mon père était vigneron, il était arbitre international aussi, donc j'ai été nourri par ces deux univers que sont le rugby et le vin. Et c'est vrai que le vin, ça sert à célébrer. Et c'est vrai que dans le rugby, la célébration, on connaît un peu, quoi. Donc, non, c'est une reconnaissance d'abord collective, parce que c'est un travail d'équipe. Quand on a 400 salariés, quand on a 200 personnes dans les vignobles et dans les chais, forcément que mon boulot, c'est d'être chef d'orchestre. Et comme je dis souvent aussi, c'est d'être metteur en fête. Donc il faut cumuler les deux. Donner du plaisir aux gens, c'est notre credo. Et aussi, ça a été de mettre cette région sur la carte des vins du monde, puisque quand j'ai démarré, il y a presque 40 ans maintenant, on me disait que les vins du sud, c'était de la bibine, c'était les vins du midi, etc. Donc j'ai eu quelques personnes qui m'ont fait confiance, comme l'acheteur de prix unique à l'époque, Jean-Pierre Andauer, ou comme Alain Favoreau chez Nicolas, qui ont été les premiers à me faire confiance. Donc ça m'a donné du baume au cœur, et ça m'a permis de me construire. À l'époque, j'avais qu'un domaine, au château de Villemajou. Et
C'était le
puis,
domaine de ton papa.
voilà, c'était le domaine de mon père que j'ai repris à son décès en 87. Ma priorité, c'était quand même si on n'était pas pro, c'était quand même de jouer au rugby. Je jouais à Narbonne. On avait une très bonne équipe, puisqu'on a gagné 3 fois d'affilée le challenge du manoir. On a fait 2 demi-finales du championnat. Donc, j'ai jamais levé le bouclier de Brennus. C'est la seule chose que je regrette dans ma carrière rugbystique. Parce qu'après, j'ai quand même passé du bon temps pendant 17 ans. Je me suis vraiment éclaté. J'ai eu la chance aussi de faire quelques sélections. J'ai été en équipe de France de rugby à 7. Donc, franchement, je me suis régalé. Mais le plus important, c'est l'aventure humaine. C'est ça que j'en ai retenu. Et c'est ça qui m'a inspiré pour aller plus loin, dans mon boulot. Et ça m'a aussi, donné cette confiance pour vouloir d'abord rivaliser avec les meilleurs. Et puis ensuite, s'affirmer comme étant partie des meilleurs. Quand on est reconnu meilleur vigneron du monde, c'est quand même avec le top 100 de tous les meilleurs winemakers de la planète derrière moi. Donc c'est quand même réjouissant. Et puis ça affirme que le Languedoc est une grande région de vin.
J'adore. Et tu sais, le parallèle que j'ai envie de faire, en fait, entre ce que tu viens de me raconter sur tes débuts, justement, avec ce petit domaine, ça me fait penser, en fait, à... Est-ce que c'est un peu godzinesque, on va dire. Pourquoi je te dis ça? C'est que Max, qui reprend en 92 le club, et tu as fait partie, justement, de cette aventure, jusqu'à l'arrivée en 98 et ce bouclier soulevé par les Raptou, Bernard Laporte, tout ça, mais tu as fait partie de cette aventure qui a permis au Stade français d'être ce qu'il est aujourd'hui, voilà, ces joueurs qui sont passés. Est-ce que c'est, y a pas un parallèle à faire entre ce qu'a fait Max entre 92 et ce qu'est le club aujourd'hui, avec, on a quand même, il y a eu 5 boucliers qui ont été glanés, partir de pas grand-chose, mais d'écrire une histoire avec des hommes, avec des femmes aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées aussi dans les bureaux aussi à Jean-Bouin, comme chez toi, avec tes collaboratrices et collaborateurs. Il y a un parallèle à faire avec le Stade français, parce que parti de pas grand-chose, mais de l'histoire, ton papa, l'histoire du club, le Stade français, la fusion qui amène aujourd'hui à l'un des meilleurs clubs aussi en France qui est le Stade français, et toi qui es aussi l'un des meilleurs, voire le meilleur aujourd'hui vigneron du monde. Il y a un parallèle à faire.
Alors oui, le parallèle en fait, c'est d'abord quand j'ai rencontré Max. Max, au début, son club préféré, c'était Narbonne, avant qu'il soit dans le rugby, parce qu'il avait des amis narbonnais, donc il est venu au rugby par Narbonne, ça personne ne le sait.
D'accord, je pensais que c'était par le bataillon de Joinville, moi, tu vois, les rencontres qu'il faisait avec l'équipe de France.
Oui, mais bataillon, il ne jouait pas tous les dimanches, donc ouais. Il venait nous voir de temps en temps, et puis quand j'ai signé au Stade français, c'est moi qui l'ai appelé, parce que j'ai dit, écoute, je monte un bureau à Paris, il y avait Christian Labitte et Gilles Belzon qui montaient, qui avaient une vingtaine d'années à Narbonne, donc... J'avais pas envie que de dire, comme on dit, de faire banquette. Donc, l'année dernière, j'étais titulaire toute ma carrière. Donc, j'ai dit à mon président, François Sangali, écoute, je vais aller à Paris. Je vais ouvrir un bureau. Et puis, j'ai appelé Max. J'ai dit, écoute, voilà, donc je vais venir. Si tu veux, je viens jouer chez toi. Alors, on s'est rencontrés. Il m'a dit, c'est sûr, tu crois vraiment que tu vas venir. Voilà, donc, ce qui est important de voir, c'est que pour avoir du succès dans la vie, d'abord, ce qui est important, c'est d'avoir la passion du détail. Et ensuite, c'est toujours pareil, c'est la vision. Il faut garder la vision de ce qu'on veut faire. Et ça, c'est le rôle du chef d'entreprise. Et ensuite, il faut avoir une stratégie cohérente pour savoir comment on va conquérir les marchés. Ensuite, il faut avoir un plan d'action, des moyens et se fixer des objectifs élevés. Et Max, j'étais avec lui quand on a commencé à recruter la première année. Il disait toujours, si tu n'es pas un champion, viens pas au Stade français. Et moi, quand je recrute des gens, ou quand mes équipes recrutent des gens, je leur dis, écoutez, si les gens n'ont pas l'envie de se dépasser, il ne faut pas qu'ils viennent. Et comme on dit chez nous, les gens ils restent 3 mois ou 20 ans, parce que s'ils se sentent bien dans cet esprit de famille, mais aussi dans cette volonté d'être compétitif, d'avoir de l'ambition, de conquérir des marchés, parce que c'est aussi très compliqué et très complexe, le marché du vin. Donc, c'est avec des gens comme ça qu'on peut aller plus loin. Et c'est cet esprit que je véhicule au quotidien à mes équipes.
Pour moi, c'est le fameux mental de guerrier, ce mental de haut niveau, ce fameux mental de guerrier. Est-ce que cette notion de mental t'a aidé dans la construction de ton empire viticole aussi? Parce qu'il faut arriver à faire passer aussi des messages auprès de ses collaboratrices, ses collaborateurs. On le sait, hein, dans un vestiaire, il y a une sorte de cacophonie, mais quand tu sors du vestiaire, voilà, t'as le capitaine et t'as les mecs qui suivent derrière, et les nanas. Et je pense qu'en entreprise, c'est un peu pareil. Donc il y a cette notion de... Alors, quand je parle de mental, il y a certes le mental de guerrier que tu as connu dans les années 80-90, et j'aime beaucoup le coaching mental aujourd'hui, de trouver sa motivation intrinsèque aussi. Quel est, toi, ce mental que tu avais et cette source de plaisir que tu trouves à travers les challenges? Tu vois ce que je veux dire sur le mot mental?
Oui, oui, en fait, d'abord, moi, je dois remercier mes parents, mon père et ma mère, parce que, avec ma sœur, dès l'âge de 10 ans, ils nous envoyaient dans les vignes. Et quand j'avais 14 ans, j'y passais tout l'été, du lundi au samedi, de 5h du matin à 13h. Donc, je détestais les vacances parce qu'en fait, les vacances, pour moi, c'était aller bosser. Et je préférais aller à l'école. Donc, et je les remercie parce qu'ils nous ont donné le goût de l'effort et le goût du travail. Et ensuite, en fait, moi, le rugby, je l'ai vécu dans la rue puisque on faisait tous les soirs. Moi, je jetais le cartable, j'étais un enfant de la balle. Et tous les jours, on allait sur la place du village, sur le goudron, et on jouait au rugby. Et donc, c'est là où j'ai appris à faire des deux contre un, à faire des fins de passe. Et j'ai joué en plus tout le temps avec des gars qui étaient mes cousins, qui étaient plus âgés que moi. Et on était une vingtaine. Donc, c'est là où je me suis endurci à ce sport. Mais surtout, le mental, je l'ai forgé dans les vignes. Et ensuite, après, la vie m'a appris, parce que forcément, quand tu te retrouves chef d'entreprise, même si c'était une petite entreprise à l'époque, à 22 ans, mais forcément, tout ce qui tue part en plus fort, on dit, et forcément se remettre en question, vouloir aussi avoir au départ la volonté de poursuivre ce qu'avait fait mon père, après de m'en détacher pour devenir moi-même et puis pour aller plus loin. Donc voilà, c'est un parcours de vie. Et le rugby, ce qui permet là-dedans, c'est que le rugby, c'est l'école de la vie. Et le rugby, la bonne nouvelle avec le rugby, c'est que quand tu te connais, quand tu chasses tes peurs, tes démons, et quand tu deviens toi-même, c'est plus facile. Et comme c'est l'affrontement, le rugby, ça permet ça. Parce qu'en fait, quand tu es dans un vestiaire, que tu, que tu te prépares, et ensuite quand tu t'affrontes sur un terrain, et après que tu te réconfortes après le match. Tout ça, c'est vraiment une école qui te sert dans la vie, quoi. Et quand tu l'as acquis, ben après, tu ne le perds pas, quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai 58 ans. Dans ma tête, j'ai toujours ce mental, et j'ai toujours cette volonté de donner le meilleur de moi-même, et de pousser les équipes aussi à l'excellence. Et l'excellence, c'est comme on dit toujours, c'est tu joues comme tu t'entraînes. Donc, il faut vraiment s'entraîner pour ça. Et mes équipes, elles sont forgées avec ce ciment-là, quoi. C'est ça qui est important. C'est ça qui fait la différence à la fin.
Ah oui,
Comme
c'est
disait...
le fameux supplément d'âme, en fait, le transcender la peur, le supplément d'âme aussi, quoi, qui permet collectivement aussi de gagner des titres.
Oui, en fait, tu sais, quand les gens te disent on peut pas, tu leur dis pourquoi. 9 fois sur 10, ils savent pas pourquoi. Donc tu leur dis, puisque tu sais pas pourquoi, tu vas faire. Et tu vas, voilà. Et comme disait Sénèque, c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Et donc ça, c'est un mantra que je m'applique, que j'applique aussi à mes équipes. Mais voilà, donc à la fin, la vie, elle est formidable. Donc, mais la vie, c'est le dépassement de soi, parce que quand tu as franchi ce cap, tu te fixes plus de limites après. Et quand tu te fixes pas de limites, ben, tu as de la chance de pouvoir aller plus loin et de pouvoir embrasser
Le divin.
les opportunités quand elles se présentent. Et puis aussi, ce qui m'a souvent guidé à moi, c'est la foi. J'en parle dans mon livre. Donc, la foi, c'est ce qui fait que tu ne t'éteins pas dès qu'il y a le moindre problème. Ou dès qu'il y a la moindre bagarre, tu ne vas pas t'échapper. Tu es là, tu te remets en question, même si tu prends un coup sur la tête. Et tu repars au combat. Donc, la foi, c'est ce qui te guide tous les matins, quoi.
J'allais y venir, Gérard. Tu le sais, on a échangé nos livres. T'as bien reçu le mien, hein, le bouquin. Tu as,
Oui.
oui. Et moi, j'ai lu le tien. J'ai lu le tien, La nature au cœur. Et c'est une invitation à l'ouverture, à la découverte de la nature. Tu parles de sentiments, de prendre soin de soi et donc de prendre soin de la terre. Est-ce que elle n'est pas là notre évolution en tant qu'être humain, apprendre à se connaître, à s'aimer, ce qui amène au respect de l'autre, de la terre, de l'environnement? Est-ce que tout part de soi, non? On ne nous apprend pas. Moi, ce que j'ai remarqué, en fait, depuis tout petit, j'ai vécu à toujours vouloir prouver à l'extérieur. Mais on ne m'a pas appris à croire en moi pour ce que j'étais véritablement, c'est-à-dire quelqu'un de bien parmi des gens bien. Et tu parles de foi, de spiritualité. Et ce bouquin, et en plus, il est hyper accessible et je le trouve absolument génial. Est-ce que tout ne part pas de soi, justement?
De toute façon, en fait, dans ce deuxième livre, La nature au cœur, j'ai voulu livrer un peu mes sentiments intimes sur à la fois mon expérience, mon contact avec la nature et aussi sur un monde de meilleur, parce qu'en fait, on est au paroxysme aujourd'hui de tous les possibles. On n'a jamais vécu aussi facilement. Moi, ma grand-mère, elle est née le 1er janvier 1900. Elle a eu sa première douche à la maison en 1970. Elle avait 70 ans. Moi, quand j'avais 5 ans, j'allais aux toilettes dans le jardin. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, on vit dans un confort et c'est tout est devenu normal. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont perdu cette forme un peu de transcendance, de se savoir pourquoi on est là. Alors, pour répondre à ta question, la seule chose qu'on ne peut pas changer, c'est son corps. Ce qu'on peut faire avec son corps, parce que son corps, c'est son temple, il faut en prendre soin. Et c'est vrai qu'en faisant du sport, en faisant aussi attention à ce qu'on mange, en nourrissant aussi son intellect, en essayant d'avoir des lectures qui approfondissent un peu ton ressenti, ben, tu deviens une meilleure version de toi-même et tu gagnes en confiance. Et quand tu gagnes en confiance dans la vie, eh bien, tu sais trier les bons amis des mauvais, tu sais trier les bonnes idées des mauvaises, et puis tu t'améliores au quotidien. Donc, c'est un parcours. Et c'est ça qui est beau dans la vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, où tout est possible, parce qu'en fait, avec la technologie, etc., on tombe un peu dans la facilité. Et ce que j'ai voulu dire dans ce livre, c'est que la nature, elle est plus forte et plus intelligente que nous. C'est elle qui commande, c'est pas nous. Par contre, nous, on peut essayer d'être en harmonie avec le monde qui nous entoure, avec les gens. Et aussi avec les écosystèmes dans lesquels on est. Donc, aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. Ben, c'est un peu l'histoire du colibri. Chacun peut faire sa part. Et en même temps, il ne faut pas sombrer dans le catastrophisme, parce que pour changer de modèle de société, il faudra 20 ou 30 ans, on ne va pas faire les choses en 5 minutes, et ce n'est pas la France toute seule qui peut changer le monde.
Non, donc il
Par
faut donc
contre,
donc il faut avoir la foi.
oui, il faut avoir la foi, et puis il faut, c'est les idées aussi qui vont changer le monde. C'est-à-dire, c'est faire soi-même ce qu'on a envie, essayer d'expérimenter des nouvelles choses, et puis aussi se dire que ben, qu'on est là pour une poignée de secondes et qu'il faut se donner à fond et qu'il faut donner un sens à sa vie. Et moi, c'est ce qui me guide. Dans tout ce que je fais, dans tous les cas, j'essaie de donner du sens, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit à titre privé quand j'aide certaines personnes ou que ce soit dans le rugby, puisque je suis à la fois actionnaire du club de Narbonne et je m'occupe du club de Corbière 15 qui joue en régional, où j'ai une vingtaine de joueurs qui jouent ou qui ont joué et qui travaillent chez moi. Donc, j'essaie de donner du sens à cette aventure humaine parce que tu te rends compte surtout que sans les autres, un, tu t'emmerdes et deux, tu n'es pas grand-chose. Voilà. Mais par contre, ben, la foi, ça t'aide à rester positif et à faire passer les bons messages et aussi à te sentir bien, quoi. Parce qu'à la fin, la pression, comme je dis souvent à mes collaborateurs, elle est chez Michelin, elle est dans les pneus. La pression, ça ne veut rien dire. La pression, c'est le sel de la vie. Donc, se lever le matin en ayant des choses à faire, en ayant envie de résoudre des problèmes, c'est bien, quoi. Donc, et en sachant qu'on ne va pas tout faire du jour au lendemain, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de vision et qu'il faut toujours, toujours, toujours garder la vision élevée parce que c'est ça qui a fait les grands succès dans la vie, que ce soit au niveau du sport. Il y a plein d'exemples comme ça, que ce soit au niveau des grands dirigeants de ce sport ou que ce soit dans la vie professionnelle.
Tu as parlé de j'aimerais qu'on revienne 2 minutes quand même sur la transition énergétique et du changement climatique, parce que est-ce qu'on n'a pas justement un rôle à jouer essentiel pour la nouvelle génération, celle de transmettre nos échecs, à ne pas imiter, et nos remises en question, parce qu'il y a urgence. Et je te cite, notre capacité à oublier et à ne pas tirer des leçons de ces crises majeures est hallucinante. Qu'est-ce qu'on peut apporter à cette nouvelle génération, au-delà du rugby et au-delà du sport, en tant qu'homme? Justement, et je parle aussi du masculin, parce que le masculin doit se remettre en question. On voit que le féminin pousse aussi, a envie de trouver sa place à nos côtés. Mais est-ce que le masculin n'a pas aussi à se remettre en question sur voilà, cette vulnérabilité, accepter l'échec, la remise en question, et puis la transcender, justement, transcender nos peurs? Sinon, on reste un peu dans des clichés de virilité un peu à la con que tu as connu, que j'ai connu. Souviens-toi, on rentrait commotionné sur le terrain, on se foutait des grands coups de boule dans les vestiaires. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, le monde avance, le monde évolue. Mais est-ce qu'il n'y a pas une génération aussi qui reste un peu accrochée à certaines croyances qui empêche. C'est facile de conquérir le monde, tu l'as dit. C'est facile d'avoir les plus gros muscles et tout ça, la plus grosse paire, on va dire. Mais se conquérir soi-même, est-ce qu'elle n'est pas là notre révolution pour revenir plus humain et apprendre à collaborer en bon citoyen du monde? Je vais loin, hein, mais je sais qu'on peut
Oui,
partager ça ensemble.
non, mais c'est une démarche un peu philosophique dont tu parles, mais en fait, tu peux pas te connaître tant que tu n'as pas dépassé tes limites. C'est-à-dire que pour t'affranchir de tes peurs, il faut que tu ailles plus loin que tes limites. Et pour aller plus loin que tes limites, à un moment donné, il faut que tu te mettes en danger. Et le danger, ben, au rugby, c'est le dimanche à 15h ou le samedi soir à 20h, tu te mets en danger parce que à la fin, avant de rentrer sur le terrain, on est tous pareils. Ben, il faut se préparer pour transcender sa peur, pour la transformer en courage, et puis pour aller au chocolat, pour aller au combat. Donc, et c'est ça qui t'aide. Et dans la vie, c'est pareil, parce que quand tout marche bien, tu ne sais pas avec qui tu travailles. C'est quand c'est difficile, où tu vois les âmes qui se révèlent, et les âmes qui se révèlent, c'est les âmes fortes, c'est-à-dire, il y a les gens, et c'est 10%, hein, dans la vie, tu le vois, hein, des gens qui ne vont pas te décevoir quand c'est dur, il n'y en a pas beaucoup. Donc, par contre, ben, ceux qui vont un peu se perdre, ben, de temps en temps, ils reviennent après, puis ça leur a servi de leçon. Et puis, ils sont. En fait, ce courage, c'est pas que le courage de conquérir, etc. C'est le courage de devenir soi-même. C'est-à-dire, c'est à un
Oui.
moment donné, je prends la parole, je m'exprime. Je fais part de mes sentiments, que ce soit, tu le disais, avec sa femme, avec son copain, avec sa copine, peu importe. J'affirme aussi mes convictions, c'est-à-dire si j'en ai, je ne vais pas me coucher parce que quelqu'un va me dire que c'est mieux, etc. Si j'ai des convictions, je les défends. Et je suis ouvert aussi à la critique. Donc voilà, et après, tout ça veut dire quoi? Ben, ça amène à une certaine forme de sagesse. Donc, et la sagesse, c'est de dire à un moment donné, OK, j'ai écouté, je prends du recul, et puis un bon matin, je vais me lever, et puis je vais avoir une réponse. La sagesse, c'est de pas être c'est de pas être dans la testostérone ou dans l'immédiateté, ou etc. Mais ça s'apprend avec la vie, et puis ça s'apprend aussi avec les cheveux blancs, quoi, avec la maturité.
Avec des témoignages, c'est pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui, parce que c'est, comme je le dis, ton bouquin, c'est une leçon de vie d'ailleurs. Il y a un chapitre titré comme ça, ce que je retiens, c'est l'importance de prendre soin de son corps et de son âme. Là aussi, je te cite, préparons un nouveau paradigme reposant sur l'amour, l'altruisme, la sensibilité, la spiritualité. J'adore, mais tu sais, il y a pas comme un paradoxe entre ces mots forts et ce monde dirigé par un patriarcat bien installé où le droit de ressentir, tu parlais d'amour justement, de vulnérabilité, n'est pas toléré chez les hommes, sinon on est considéré comme faible. Donc est-ce que cette révolution-là, elle n'est pas là justement? Je parle du masculin, hein, vraiment, de se révolutionner, comme tu dis, c'est peut-être avec les cheveux gris ou sans les cheveux, voilà, qu'on peut arriver au fur et à mesure à se rendre compte des rôles que l'on a joués et de ce que l'on veut jouer. C'est cette révolution-là.
Oui, en fait, moi, je pense surtout que le plus important, c'est il y a beaucoup de pudeur, et en particulier dans le rugby, on voit bien que les rugbymen sont des gens très sensibles. Il y a beaucoup de pudeur, et on le voit bien. Le moment où la pudeur s'en va, c'est 10 minutes avant le match, parce qu'à un moment donné, les gens osent aller plus loin qu'eux-mêmes, plus loin que leur propre timidité, et tu vois des gars se révéler. Et tu vois après le match, les gens rentrent dans leur coquille. Et donc, il faut arriver à garder, à sortir de cette coquille, justement. Ben pour, en fait, c'est quoi le sport de haut niveau et le sport collectif? Si tu t'aimes pas, en tous les cas pendant le match, tu peux pas gagner. Tu n'es pas obligé de partir en vacances ensemble, mais si pendant le match, tu n'as pas envie de te transcender ensemble, si tu n'as pas envie d'être à la vie, à la mort, ça ne marche pas. Donc, et on le voit même dans tous les sports collectifs, c'est pareil. Tous les sports collectifs, et ça, c'est la force. Les sports collectifs, c'est que l'aventure humaine, c'est pas toujours les meilleurs joueurs qui font les meilleures équipes. C'est les gars qui, tu parlais des râpeux tout à l'heure, les mecs, moi je les ai joués plusieurs fois, ils avaient une foi indestructible dans leur équipe. Nous, on était rocailleux en Narbonne, ça rigolait pas. Quand Francis Desjean est rentré dans le vestiaire, il fallait être prêt. Henri Sanz, c'était un monstre du jeu. Donc il y avait des mecs, ils t'amenaient. T'avais Eric Champ à Toulon, quand tu jouais contre lui, c'était le défi permanent, quoi. Donc, tu avais toujours cette notion de combat, et après, il y avait le respect, quoi. À la fin du match, même maintenant, quand les mecs, on se croise, que ce soit les gars avec qui j'ai joué ou les gars contre qui j'ai joué, un clin d'œil, ça suffit. Tu retrouves dans cette complicité que tu as eu à la fois avec tes partenaires et avec tes adversaires. Et c'est là où ce sport de rugby est magique. C'est que ben, quand tu as joué contre les gars, ben, tu as ce lien unique qui est là pour la vie, quoi. Donc, et c'est ça qui donne de la force aussi. C'est pour ça d'ailleurs que, comme on dit souvent, c'est la première petite mort quand tu arrêtes ta carrière et qu'il faut trouver comment tu peux te transcender après. Et c'est pas facile, hein, parce que le rugby, c'est un monde extraordinaire et quand tu reviens à l'ordinaire, ben, la vie est plus fade. Donc, il faut arriver à créer les conditions de retrouver un univers extraordinaire. Moi, je l'ai fait en me mettant en danger professionnellement. J'ai démarré avec 4 personnes. Aujourd'hui, il y en a 400. Donc, je me suis mis en danger pendant longtemps. Parce que les gens disent, Gérard Bertrand, ça marche très bien. C'est vrai. Mais pendant 25 ans, je n'ai pas gagné d'argent. Ça a été long. Donc, mais mon moteur était là. J'avais envie d'entreprendre. J'avais envie de créer. Et donc, si je peux délivrer un message, c'est que quand tu crées des choses, quand tu fais des choses, quoi que ce soit en petit ou en grand, ben ça te nourrit. Voilà. Et si ça te nourrit, ça donne un chemin et ça éclaire ton chemin et ça donne un sens à ta vie. Et ça sera plus facile si au fond de toi, tu as une petite musique qui t'encourage. Cette petite musique, moi, je l'appelle la foi. C'est pour ça que j'ai fait un chapitre qui s'appelle La puissance de la foi. Parce qu'en fait, on est multidimensionnel, quoi. On a cette capacité à se transcender, cette capacité à aller plus loin et à devenir une meilleure version de soi-même et surtout à comprendre que cette force spirituelle, ben, elle peut changer ta vie.
C'est la transcendance de l'ego et voilà qui t'amène à devenir ce que tu es. C'est le chemin de vie des philosophies et des mythologies à travers les âges et j'adore. Tu parlais justement de faire le deuil justement de la carrière. Je sais que tu avais pris le large fut un temps avec le rugby et t'en es revenu. Tu parlais justement de Narbonne. Tu parlais aussi de ton club de cœur. Où t'en es toi aujourd'hui par rapport au monde du rugby?
Alors, comme je dis souvent, j'ai tourné la page au niveau opérationnel parce que je n'ai pas le temps. Je voyage beaucoup, j'ai beaucoup d'activités, donc je n'ai pas le temps d'être impliqué opérationnellement dans les deux clubs qui sont les deux clubs de mon cœur. Mais je suis, comme je disais, actionnaire de Narbonne et je suis celui qui garantit, je dirais, la stabilité du club de Corbière 15 qui fait la finale d'Occitanie prochainement, là. En Régional 2. Donc, en fait, je ne me suis jamais coupé de mon premier club, qui est le club de Saint-André-de-Roquelongue, là où je suis né, qui est devenu Corbière 15. Et j'ai passé 17 ans comme joueur et 3 ans comme président du club de Narbonne. Donc, ça reste pour moi les seules choses, le contrat social qui n'est pas négociable dans ma vie. C'est qu'ils peuvent me demander toujours quelque chose et je serai toujours là. Après, forcément, le rugby professionnel, il a changé. Ça peut être frustrant parce que forcément, il faut jouer pour autre chose que pour le résultat. Nous, là, actuellement, on est en national. Le club aimerait remonter en Pro D2. Pour le moment, ça coûte beaucoup d'argent. Et dans le club de Corbière 15, ce que j'essaie de faire passer, c'est de recruter avec mes collègues, puisque Thomas Clavière, qui jouait à Narbonne avec moi, est le manager du club. On a deux joueurs qui jouent aussi à Narbonne, dont Cédric Rosalem, par exemple.
Ouais,
Donc,
Rosie.
oui, on essaie de faire passer ces messages. Et en fait, on se rend compte que l'aventure humaine, elle est même plus forte en régional, parce que les gars, ils sont tous du cru, ils se connaissent tous, ils ne sont pas que de passage. Donc, en fait, c'est plus facile aussi de les ancrer professionnellement. Donc voilà, mais en tous les cas. Le rugby, ça reste pour moi un repère pour moi, pour mes équipes, pour mon entourage. Et j'ai toujours du plaisir à rencontrer mes potes et mes collègues. Et quand je peux aider, je le fais avec bon cœur.
Gérard, on va conclure cet échange. Normalement, c'est toujours moi qui ai le mot de la fin, comme le dit Arnaud Beurdelet. Mais par respect pour les anciens et pour l'ancien que tu es, je vais te laisser le mot de la fin. Un mot, un conseil, une transmission vers la génération future, tu en as parlé. Joueur amateur, joueur professionnel, même aussi joueuse aussi. On prend que les femmes trouvent aussi leur place dans notre cher sport. Si tu avais un message à faire passer qui te viendrait là, passerait par la tête, là maintenant tout de suite avant de partir.
D'abord, Raphaël, je voudrais te remercier parce que tu es une belle âme et tu as compris que le rugby, ben, c'est juste une transition pour te préparer à être une meilleure version de toi-même. Tu disais qu'effectivement, le rugby aujourd'hui se pratique au féminin et au masculin. C'est une chance parce que ça a permis aussi de faire découvrir cet univers aux familles grâce au rugby féminin. Donc, le message, c'est. En fait, c'est un message d'espoir parce que déjà, malgré tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous rabâche à la télé, il est trop tard pour être pessimiste. Donc, il faut rester optimiste.
C'est vrai.
Parce qu'aussi, la nature, comme je le dis, elle est plus forte et plus intelligente que nous. Donc, elle se chargera de corriger nos erreurs si on en fait trop. Mais par contre, ce que je veux dire en particulier aux jeunes, c'est ne gâchez pas votre potentiel, quoi. Ne restez pas attachés à des chimères. Devenez vraiment vous-même. Allez chercher au plus profond de vous-même qu'est-ce qui vous guide, qu'est-ce qui vous motive. Soyez impertinent, mais créez des choses. Voilà, et ayez envie d'aller à la rencontre des autres et du monde. C'est ça qui est important. La vie, c'est une aventure. Et on ne réussit pas tout. Mais par contre, on tire les leçons de ces échecs. Et ça, c'est important. Parce que quand on tire les leçons, ben, on devient meilleur. Et en devenant meilleur, ben, forcément. On a le succès qui vous sourit plus facilement. Mais le plus grand succès, ce n'est pas d'avoir un compte en banque bien rempli. Le plus grand succès, c'est de pouvoir aller où on veut quand on a envie, c'est-à-dire d'avoir cette opportunité de pouvoir voyager sans avoir de contraintes financières et aussi d'avoir suffisamment d'amis sur la planète pour pouvoir aller boire un coup et partager.
Et merci d'avoir fait un bout de voyage avec moi et avec nous aujourd'hui. Et comme ma mère, tu vois, juste avant de partir, ma mère a toujours eu le dernier mot. Donc je vais prendre le dernier mot en te remerciant et en te disant que ça fait quand même 6 ans que je fais cette émission. Je calculais cette nuit à 3 h du matin parce que j'ai préparé cette émission. Je calculais à 3 h du matin à me dire, j'ai fait 210 émissions et je suis sûr que celle de Gérard, elle va être dans le top 3. Ben, je te mets sur un pied d'égalité, sur la première position avec Guy Noës, avec qui j'ai fait une super émission. Et grâce à toi, les hommes qui écouteront justement ce podcast pourront peut-être se transcender en tout ça. La transmission est passée. Gérard, je suis ravi. À très bientôt. Je viens boire un coup dans pas longtemps. On se voit dans pas longtemps chez toi, avec grand plaisir. Et d'ici
Avec
là,
toi, Fred.
on continue le voyage. Merci beaucoup.
Voilà, ciao, à bientôt.
Voilà, troisième partie de Poulain Rafute. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de raccrocher le micro et d'aller prendre ma femme dans mes bras et de lui dire je l'aime après ce genre d'entretien et de partage avec Gérard Bertrand. Ouais, je pense que ça montre aujourd'hui toute ma volonté de partager ces moments-là avec les hommes et les femmes justement qui font le rugby, qui font le sport, mais pas que, vous l'avez compris. Donc voilà, merci encore à toi Gérard. Et je voulais juste un dernier coup de cœur en fait partager avec vous. Voilà, non pas une amitié, parce que on n'est pas amis, mais beaucoup de respect pour la personne que je vais citer dans mon petit coup de cœur maintenant. Voilà, ma génération a été marquée par les Albaladejo et autres Thierry Lacroix en consultant. Il y a aussi, Salviac aussi, Pierre Salviac aussi, qui fait partie de ce trio. Et depuis plus de 15 ans, la voix du rugby pour la nouvelle génération des supporters, c'est Mathieu Lartaud, vous le voyez à l'écran, et depuis quelques années, Dimitri Hagevini. Originaire de Mantes-la-Jolie, Mathieu Lartaud était demi-de-mêlée. Et aussi en IDF, en équipe d'Île-de-France, après avoir passé 2 ans à l'hôpital, il a dû faire le deuil du joueur qu'il était, dû à une tumeur au genou, et se tourne vers le journaliste. Ça fait 20 ans qu'on l'entend, Mathieu, qu'on le croise aux abords des stades, de Murrayfield à l'Aviva Stadium ou encore au Stade de France, avec le Yash. Aujourd'hui en retrait pour une rechute de son cancer, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux et c'est l'actualité de France Télé. Il a annoncé son protocole lourd et une opération qui va le priver d'une partie de sa jambe. Donc voilà, pour le connaître un petit peu, c'est un gars passionné par son sport, par les hommes, par le sport et qui donne tout aux commentaires à chaque match. C'est un mec bien, un joueur de rugby, le bon pote du fond du bus à qui je souhaite bien du courage pour nous revenir en forme, qu'à aucun moment on ne peut imaginer la Coupe du Monde et le prochain tournoi Destination sans lui et sans sa voix. C'est une étape, une blessure lourde, mais qui, enfin, en tout cas, on aimerait que Mathieu, tu restes titulaire aux commentaires et t'as pas le choix parce que la France a besoin de toi. Alors bon rétablissement et à très bientôt dans nos postes de télévision. Voilà. Poulain Rafute, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier Marion Rabot pour la réalisation de cette émission, journaliste à Eurosport. On se retrouve la semaine prochaine avec mon acolyte Arnaud Beurdelet. Et d'ici là, vous le savez, éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre. La vie est belle. Salut.